Oh, que c'est bon. Que c'est bon d'entrer dans l'eau chaude pour le Philomène numéro 2. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, Philomène numéro 1, le thème est un peu la vérité toute nue par l'homme tout nu. Et c'est en fait quelque chose que j'émule depuis un reportage de la BBC où un historien de l'art discutait de l'évolution de la pornographie à travers les âges. Et certains moments de son discours, on le voyait tout nu en train de poser pour une peintre. Donc voilà, moi je n'ai pas de peintre disponible. Enfin si, j'en avais une, mais bon. Et donc, je me contente de ce soliloque dans mon bain. Le bain étant générateur d'inspiration pour moi. Oui, parce que ça fait du bien à ma peau de tremper longtemps, mais en général, je m'emmerde quand même facilement dans le bain, quoi, hein. Donc là, j'ai trouvé une distraction utile. Je philosophe dans mon bain. Alors hier, j'ai fait quelque chose de très long et la caméra m'a coupé. Salope ! Oui, je n'aime pas dire salope, sauf quand c'est pour une caméra, évidemment. Et donc j'en étais à discourir à propos de l'espèce de dissonance cognitive qui semble frapper Meta en matière de répression de tout ce qui est, de toutes les images présentant un caractère sexuel. Alors, faut pas oublier que pour Meta, un téton féminin doit être masqué, alors qu'un téton masculin est admis dans les photos. Donc la notion de décence et d'indécence est assez particulière. Voilà, il y a des gens qui se font fermer les comptes. Moi aussi, je m'en suis fait fermer pour avoir publié des images indécentes. Voilà. Bien qu'appartenant à Meta, et Meta prétend qu'il applique des règles communes pour ces différents canaux, à savoir Facebook, Instagram, Pinterest et Tumblr, eh bien, on voit en fait que les standards en matière de nudité et de sexualité sont pas du tout pareils. Voilà. Instagram a des images où on voit très clairement des dessins de couples en train d'avoir des relations sexuelles. Moi, j'aime bien le terme copulé. Donc, on voit des couples copulés en dessin. Sur Tumblr, on voit des couples copulés en photo. Bon, il n'y a pas les gros plans pornographiques sur les organes sexuelle externe en interaction. Mais voilà, c'est des couples bon, voilà, qui font l'amour. Et sur Pinterest, on est quand même avec des images très érotisées, sans être clairement pornographique. Quoique, on doit trouver sur Pinterest des miniatures indiennes de l'époque des Moghols. Donc là, oui, il y a clairement des pénis qui pénètrent des vulves. Mais c'est, voilà, de l'image historique. Donc, une fois qu'il y a de l'histoire, c'est plus admissible que si c'était quelque chose fait par vous et moi. Donc, cette dissonance entre ce qui est prétendu par voilà, les politiciens de méta, Mark Zuckerberg en tête, que les règles s'appliquent partout et pour tout le monde, eh ben, quand on regarde, c'est un peu différent. Et donc, ben voilà, ils ont quand même de plus en plus établi que si personne ne se plaît, ben finalement, on va pas supprimer le compte, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant qu'on fait tourner les compteurs, eh ben, tout ce qui génère de l'attention de la part de l'audimat ou du public ou de l'audience, et qu'on peut vendre cette audience à des publicitaires, à des gens qui veulent faire connaître leurs produits en introduisant des publicités entre les images produites par les différents comptes, voilà, ça fait tourner les compteurs en banque de Meta. Voilà. Voilà. Ma lampe s'est trop déchargée avec mon tournage de la nuit dernière. Bon, ben je vais essayer de continuer quand même à raconter quelque chose, même si on ne voit pas beaucoup. Voilà, la motivation commerciale finit toujours par s'accommoder de compromission quant à la morale exprimée. Voilà que c'est bien dit. Qu'est-ce que je vais trouver pour rétablir. Donc le bel éclairage étant rétabli, ça me donne quand même un air un peu mystérieux, mais voilà, je suis un mystère, comme à peu près tous les êtres humains qui ont décidé ou qui ont été amenés à ne pas penser sans esprit critique. Ah ben voilà. Là, ça fait un superbe éclairage. Que mes auditeurs, lecteurs, ouais, pas très de bons lecteurs, mais enfin, voilà, mon public. qui apprécie. Donc la répression, prohibition de ce que Zuckerberg et les autres considèrent comme indécent, et donc indécent c'est pornographique, ou pornographique c'est indécent. Voilà, c'est une observation. Oui, les différentes époques, les différentes civilisations ont eu vis-à-vis de l'imagerie relative aux pratiques sexuelles des opinions et des principes et des codes et des techniques qui ont été quand même très 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 variables. L'époque des miniatures érotiques indiennes explore la sexualité humaine dans un très large spectre. Hein. On trouve des scènes de zoophilie, on trouve des scènes d'homosexualité masculine, on trouve des scènes avec de multiples partenaires. Donc, l'époque reconnaissait la présence de ces formes de sexualité. Alors, je ne suis pas assez calé, documenté sur cette époque pour dire si oui ou non la société acceptait en pratique ce qui est montré dans les miniatures. J'ai lu récemment que les représentations pornographiques, les fresques pornographiques retrouvées à Pompéi, ne témoignaient pas vraiment d'une grande liberté sexuelle. En tout cas, c'était un plaisir souvent réservé aux hommes et femmes libres, dont les sextoys étaient leurs esclaves. Et il y avait dans l'article notamment la mention que lécheurs de vulve, donc pratiquants du cunnilingus, étaient une injure. Voilà, et que si ce genre d'acte devait avoir lieu, ce serait à l'aide d'un esclave ou d'une esclave. J'ai tendance quand même à croire que la motivation sexuelle tend à escalader les barrières sociales, enfin, ou les conventions en la matière. Quand on a vraiment envie, en général, on se laisse aller, surtout si, voilà, les choses qu'on peut voir suggèrent des pratiques qu'on aimerait bien essayer. Alors, je m'étais aussi un peu focalisé là, dans mon discours d'hier sur l'histoire de la sexualité écrite par Michel Foucault, qui fait ça avec une minutie extrême. Il faut être bien concentré pour le lire, mais ce mec a une méthodologie, un esprit d'analyse, un sens de la critique et de la mise en contexte absolument exceptionnel dans ce que j'ai pu lire. Et c'est passionnant parce que justement les détails fourmis, le lien entre tous ces détails est très longuement explicité. C'est passionnant à lire, je le conseille à tout le monde. La pratique catholique, enfin, il me semble que c'est surtout catholique, je ne sais pas si les protestants sont obligés de se confesser. Bon, ça faudra quand même que je vérifie. Mais les prêtres catholiques avaient reçu des consignes de faire parler leurs confessés de tout ce qui avait trait à leur sexualité, les actes et les pensées. Donc il fallait raconter dans le confessionnal à monsieur le curé ses pensées impures. Alors Foucault développe toute une explication a posteriori de l'effet de ce brassage de récits à caractère sexuel. Récits fantasmatiques et récits pratiques et charnels. Et d'après lui, ce brassage, cette récolte, a servi à construire un vocabulaire, à construire une typologie qui a été suffisamment diffusée pour devenir une espèce de déclencheur socialement généralisé de désir sexuel. Alors le désir sexuel, jusqu'à il y a deux générations, ça voulait dire procréation pour la très grande majorité des chrétiens catholiques. Et la procréation, ben voilà, ça fait des bras pour l'économie quand les enfants survivent, évidemment. Hein, ce qui, bon, mortalité infantile a toujours été très élevée jusqu'au pasteurisme. Mais justement, pour contrecarrer cette mortalité infantile importante, il était capital que les femmes retombent enceintes et refassent pour remplacer celui qui était mort. Et moi je vois quelque chose que Foucault n'évoque pas assez fort dans mon souvenir en tout cas, c'est que cette injonction en espèce de négatif, hein, vous pensez sexe, eh bien, arrêtez de le penser, faites-le, mais faites-le pour faire des enfants. Hein, mais faites-le parce que derrière la procréation, les naissances, il y a le contrôle des individus dans une hiérarchie sociale que l'Église n'a jamais contestée. Le roi était de droit divin, la noblesse aussi. Tout ça dépendait de la volonté de Dieu. Et donc, si on se retrouvait serf, esclave, même si on ne pouvait pas, on ne va plus appeler ça comme ça, ben, on contribuait à l'accumulation de richesses, voilà, de l'échelle sociale au-dessus.